Dans ce numéro spécial du Bazomag sur le tourisme, on a pensé inviter Jean-René Dufort, infomane, parce qu'avec son livre de photos, On est tous quelque part, paru cet automne, il y a vraiment une réflexion sur le tourisme, sur son rapport au monde qu'on a eu envie d'explorer. Jean-René Dufort, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu es un touriste ou un voyageur, toi?
Je pense plus un voyageur qu'un touriste. Moi, j'ai une opinion très péjorative du tourisme.
Ah oui? C'est quoi la différence entre le touriste et le voyageur pour toi?
Ben moi, j'ai une vision. Mon cerveau fonctionne par caricature. Donc, j'ai peur de devenir un jour un touriste, c'est-à-dire quelqu'un avec une caméra autour du cou attachée avec une ganse, avec sa petite poche, sa bédaine qui tient son passeport puis son argent étranger et qui monte dans l'autobus, qui s'en va à la place désignée où on lui a dit d'aller, qui mange à la place on a dit d'aller, qui va voir le musée ou l'église pendant 5 minutes, prend des photos, remonte dans l'autobus. Cette espèce de vision-là...
C'est une image très précise.
Oui, c'est une image très épeurante pour moi. Si un jour j'arrive à ce niveau-là, abattez-moi sur le champ.
Mais ce touriste-là que tu décris, celui qui suit vraiment les consignes, c'est aussi le touriste hipster qui va dans Brooklyn, puis qui suit son petit guide hipster, puis qui voit des affaires hipster, puis qui a l'appareil photo hipster. Ce n'est pas que le touriste caricatural de Tours, l'Europe en 15 jours.
Là. Je dirais à la blague...
On est tous des touristes quelque part.
Oui, mais c'est celui qui suit son guide touristique, un peu comme une liste d'épicerie. Faut voir ça, check. Faut voir ça, check. Faut voir ça, check. Et moi, j'aime pas sentir que le touriste à un endroit n'a pas vraiment la sensibilité de l'endroit ou vient pas le voir autant que vient être présent puis prendre une photo. Moi, ça, je trouve qu'il y a une différence.
Oui.
Et quand le touriste est seulement présent, ça m'énerve.
Mm-hmm.
J'aime ça voir des gens qui veulent vraiment aller voir quelque chose, qui veulent vraiment réfléchir ou qui sentent qui ont le goût d'être là. Ça a l'air drôle à dire, mais je trouve qu'il y a beaucoup de touristes qui sont là parce qu'on leur a dit d'aller là, parce qu'il faut être là, puis parce que c'est winner d'avoir une photo sur mm-hmm. Facebook avec la tour penchée en arrière.
Oui, effectivement. Et être voyageur, c'est quoi comme attitude?
Bon, il y a un côté contemplatif. Moi, je pense qu'être voyageur, c'est d'aller voir ailleurs, c'est d'aller essayer de comprendre pourquoi l'ailleurs fonctionne forcément différemment ou de qu'est-ce que c'est quoi les mœurs qui sont différentes, les façons de faire, les c'est de parler aux gens. C'est très drôle mm-hmm. de voir à quel point le touriste classique parle jamais à personne.
Oui.
Les locaux on dirait qu'on les garde séparés. Moi, je trouve que c'est carrément le contraire. Faut aller manger chez quelqu'un, faut parler à des gens, faut discuter moi ça, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça quand je pars voyager et c'est une des raisons pourquoi j'essaie d'aller aux antipodes de où les touristes vont, parce que c'est là que tu as les meilleures conversations. C'est quand tu t'en vas dans un petit dinner où il y a des gens qui sont là puis qui ont jamais, c'est qu'ils sont pas habitués de côtoyer les touristes, puis tu vas leur parler pas en tant que touriste, mais en tant que personne sympathique à qui tu as le goût de parler. Donc c'est là que les conversations, c'est là que tu palpes le coin.
Ouais. T'es. Mais c'est pas une posture, ça. Tu arrives dans le petit diner quelque
ouais.
part en Norvège, puis les gens de la place te voient bien arriver, puis ah tiens, un touriste, pas comme les autres, mais un touriste pareil.
Ben c'est sûr que tu restes toujours quelqu'un qui vient pas de là.
Oui.
C'est sûr, mais il y a des attitudes. C'est sûr que moi je prends beaucoup de photos, mais j'arrive jamais avec mon appareil photo en premier. Ou il y a des attitudes qui sont que le sujet soit toi.
Mm-hmm.
Moi je me rappelle avoir eu des conversations en Floride sur les armes à feu sans que les gens sachent si j'étais Canadien, Français ou Belge ou quoi que ce soit. Il y a cette espèce de dans le fond, c'est d'éviter le sujet que t'es un touriste, t'es quelqu'un là, mais t'es pas obligé d'être justement d'agir en touriste. Moi, j'aime beaucoup faire mine de rester en quelque part quand je suis là. Même okay, si je reste là deux jours.
De la place.
Ouais, moi, je reste là. Je suis là. Je me promène des fois. Des fois, c'est très drôle. Une des bonnes façons de passer incognito, surtout dans les endroits un peu plus olé olé, c'est que tu t'achètes un journal local.
Ouais.
Tu te le mets en dessous du bras. Là, comme ça, si t'as un journal local en suédois, c'est parce que.
Ah, ben oui.
T'es un suédois.
Ah, c'est bon, ça.
Ouais, là, c'est des petites affaires comme ça.
Oui.
Fait que t'es plus, t'es plus quelqu'un de la place que si t'étais un touriste avec ton Kodak.
Oui. Qu'est-ce que tu cherches, toi, en voyage? Est-ce que c'est justement de comprendre des sociétés locales? Est-ce que c'est le dépaysement de sortir de toi, d'être incognito? Quel est le but du voyage pour toi?
Moi, je dirais que c'est le monde. C'est ceux qui restent, les locaux. Même quand je vais voir des musées, je continue à regarder les gens qui regardent les œuvres. Ça m'intéresse beaucoup. C'est vraiment de voir comment ils vivent ici. C'est quoi leurs habitudes. Justement, quand ils vont prendre un café, qu'est-ce qu'ils prennent? C'est quoi le nom de... Moi, ça m'amuse beaucoup. Je trouve qu'il y a, trop de noms de cafés sur Terre.
Il y a trop de noms de cafés?
Oui, mais il y a trop de noms de cafés. T'sais, ici, c'est un latte. Là-bas, c'est
Oui.
Il faudrait mondialiser ça. Ça n'a pas de problème.
Starbucks est en train de le réussir.
De le réussir. Bonne chose, parce que c'est trop mêlant.
Mais où aimes-tu aller quand tu voyages?
Ben, en gros, c'est ailleurs, parce que j'ai pas de... J'aime ça être dépaysé,
ouais.
J'aime ça être amusé. C'est vrai que des fois, j'aime ça être rassuré. Il y a des endroits que j'aime beaucoup dans le monde, que j'y retourne souvent.
Comme?
En Scandinavie, ouais. C'est sûr que...
C'est rassurant pour toi.
Ouais, ben moi, c'est j'ai l'impression d'être un Scandinave dans l'âme. J'ai l'impression que quand je vais là, je suis chez moi.
Ouais.
Première fois, je suis arrivé à Copenhague, j'ai loué une voiture, puis on dirait que je savais où aller.
Attends, une voiture à Copenhague, ils sont tous à vélo.
Oh, mais
ça avait l'air d'un touriste.
Faut que tu sortes de Copenhague.
Oui.
Ben oui. Non, t'as l'air d'un touriste si tu te promènes en char tout le temps.
Okay,
mais si t'arrives, t'as stationnes, tu te promènes, il n'y a pas de problème. Mais là, je me sens chez moi. C'est des valeurs,
ouais.
Ou c'est des... Il y a une communauté d'esprit dans le choix de leur maison, leur sofa, leur façon de vivre, leur façon de faire du vélo, leur façon d'aller à la campagne. Là, je me reconnais. Il y a d'autres places où j'aime beaucoup aller justement parce que c'est carrément le contraire de moi. Et ça, ça me fait bien rire aussi. Mais en même temps, je suis assez... c'est peut-être une de mes forces dans ma carrière, c'est que je suis très malléable, je suis très spinable. Moi, j'aime beaucoup ça. Quand on dit qu'à Rome, tu fais comme les Romains,
c'est
il y a aucun problème. Si tu me prends, tu m'amènes à tel pays, tu me fais faire, tu fais laver des pieds de chrétiens dans le Gange, ça va me faire plaisir. Ça va m'amuser, puis je peux passer la journée à faire ça.
Alors, les endroits dépaysants pour toi, c'est quoi?
Je dirais que l'Asie, c'est très dépaysant pour moi,
oui.
Mais en même temps, c'est au contraire vraiment trippant parce que c'est l'endroit où les gens sont le plus photogéniques et ont pas peur de l'appareil photo. Tu peux t'approcher d'un Chinois ou d'un Japonais à un pied de sa face, puis il changera pas ce qu'il fait ou ça ne l'intéressera pas. Tu sais, le naturel là,
oui.
Est très, très, très... Tu peux voir le naturel... en Asie, ça me fascine beaucoup.
Ah, c'est curieux.
Oui, oui. Les Chinois, les Japonais, ils ont quelque chose de génétique. Tu fais un beau cadre de photo, tu dis, il me semble si un Japonais ou une Japonaise allait s'installer là avec une ombrelle,
oui.
Ce serait merveilleux. Ben magiquement, la personne s'en va exactement se planter là.
Avec l'ombrelle.
Il colle la barre.
Oui,
ça,
oui,
j'aime
oui.
beaucoup ça.
Oui.
Oui.
L'appareil photo, c'est l'arme du touriste, mais c'est aussi ton arme à toi. C'est quoi? C'est une excuse? C'est un outil? C'est ton œil? C'est quoi?
C'est mon œil. C'est un prétexte. Puis c'est vraiment un... je m'ennuierais peut-être sans appareil photo parce que c'est ma façon d'observer. Moi, j'observe beaucoup à travers l'appareil photo, puis
ouais.
Je vois des choses que je verrais pas normalement en observant à travers l'appareil photo.
Explique-moi ça.
Ben, j'ai mis en introduction dans le livre une citation qui dit que voir à travers un appareil photo, ça nous apprend à voir sans appareil photo. Puis moi, je crois beaucoup à ça. On voit différemment et je trouve qu'un appareil photo, ça ralentit le temps et ça augmente les détails les traits caractéristiques des gens, le rythme de vie. Je trouve que c'est une bonne façon de c'est vraiment un microscope à mm-hmm. société. Moi, j'y vais plus. Je fais beaucoup de photos de rue,
ouais.
mais j'y vais plus à la façon d'un sniper, c'est-à-dire de loin que de proche, parce que j'essaie de pas trop perturber. Là, j'essaie de prendre
des Japonais, bien sûr, et les Chinois.
Tu peux arriver, tu peux avoir un grand angle dans sa face, puis il y a aucun problème. Ça, c'est fantastique. Mais donc, j'essaie de les observer de loin et je sais pas. J'apprends beaucoup. C'est vraiment une loupe fantastique, l'appareil photo, pour moi. Il y en a, quand je voyage avec ma blonde, elle trouve ça bien plate que je passe 2h30 sur un coin de rue à essayer de photographier une niaiserie. C'est sûr que c'est pas la même chose pour tout le monde.
Mais en début d'entrevue, Jean-René, tu disais le touriste avec son sac banane puis son appareil photo. Tu as l'appareil photo. Est-ce que ton appareil photo est celui du touriste ou c'est un appareil photo qui te distingue déjà? Que l'œil un peu averti, quand il te voit arriver, il dit « Ah, c'est pas un touriste, lui. C'est un photographe. »
J'ai deux appareils. J'ai le gros gun, qui lui a vraiment l'air d'un appareil professionnel. Là,
ouais.
Une grosse affaire. Là. Et j'ai aussi un petit appareil qui est beaucoup plus un appareil de rue, qui lui passe incognito. Ça, je m'en sers beaucoup plus pour l'attaque rapprochée.
Oui, oui, oui.
Et parce que c'est vrai que, et ça on apprend ça quand on fait de la télé, c'est vrai que la grosseur de l'appareil, que ce soit un appareil photo ou une caméra, influence sur la réaction du sujet. MC Gilles, qui a une petite caméra, n'aura jamais les mêmes vox pop que moi avec la grosse caméra et le caméraman. C'est pas du tout la même chose. C'est pour ça qu'Herbie Moreau se promène et nous filme avec un petit appareil photo. Après deux verres de vin, on a l'impression qu'on perd la personne, puis on mm-hmm. dit toutes les potins du milieu. Donc c'est la même chose avec des photos. Moi, si je me repromenais avec le livre, j'allais voir les personnes que j'ai photographiées avec mon petit appareil photo, puis je leur dis ça finit dans un livre, ils me croiraient pas. Ils n'ont pas eu cette notion là mm-hmm. avec le gros appareil photo. C'est sûr que t'as l'impression que c'est plus, il y a un côté plus professionnel. Donc oui, c'est vrai que Darwin l'a dit, observer, c'est perturber.
Exactement. Ouais. Mais c'est une manière pour toi, donc, d'aller chercher le détail, d'aller chercher la vie. C'est quelque chose que tu ne peux pas faire au Québec?
Non. Parce que un photographe de rue, en tout cas, il faut que ça soit inexistant pour justement bien exister. Puis pour deux raisons, à Montréal, au Québec, la loi a changé depuis 15 ans. Il y a eu le jugement Duclos qui nous interdit de faire de la photo de rue sans aller faire signer des releases puis des choses comme ça. La photo de rue au Québec est plus possible. Et ça, je trouve ça très plate. Et d'ailleurs, c'est assez comique parce que si on traverse le pont de Gatineau à Ottawa, ben au milieu du pont, là, on a le droit. Parce que c'est le common law, l'autre bord. Donc, c'est très drôle
c'est
de
fou,
voir. Ouais. Fait que tu peux photographier sans un bord de pont la personne, mais pas sur l'autre bord sans y faire signer un release. Ça, je trouve ça dommage. Et il y a aussi le fait que c'est sûr que dans la rue ici, c'est « Hey, qu'est-ce qu'il fait là, Jean-René Dufour, avec un appareil photo? Ça va-tu passer infoman? » Donc, il y a pas. Je peux pas ne pas exister comme ailleurs.
Est-ce qu'il te manque quelque chose, ce regard-là que tu as à travers la photo sur les gens? Est-ce que ça te manque du Québec?
Non, parce que j'utilise le regard, ce que je vois ailleurs, comme filtre quand je reviens ici. Quand je reviens ici, je me dis, pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on fait pas ça comme ça? Pourquoi on agit de même? Pourquoi on conduit en épais comme ça, alors mm-hmm. qu'ils sont si sympathiques et courtois à 60 km d'ici, à l'autre bord de la frontière? J'utilise beaucoup la loupe de l'extérieur pour justement parler de nous dans mes reportages et aussi dans mes conversations. Mm-hmm. Je pense que je nous comprends mieux en ayant voir ailleurs le plus souvent possible.
Ouais, je reviens sur le tourisme. Est-ce que tu trouves que le tourisme modifie le monde, modifie son monde ou modifie les décors du monde?
Oui, parce que ben, moi je pense, je dirais plus l'industrie touristique.
Oui.
Parce que souvent, quand on se rend compte qu'il y a du monde qui vont voir ça parce que c'est beau, là on y greffe une espèce d'industrie qui se fout complètement de l'endroit et qui pervertit beaucoup la nature du lieu ou et ça j'haïs ça là, le monument, mais t'as tous les fatigants qui te vendent des cartes postales à côté, puis après ça t'as les quêteux qui viennent se joindre aux vendeurs de cartes postales, à ceux qui veulent te vendre un taux d'autobus. Mm. Puis moi, je trouve que oui, on contamine, l'industrie touristique contamine beaucoup, beaucoup les lieux touristiques.
Et en invente sans cesse.
Ben oui.
Il y a plus un endroit sur la planète qui échappe au tourisme.
Non, c'est vrai. Moi, je pense que les meilleurs voyages, c'est ceux qui sont le moins organisés. Tous ceux qui veulent m'organiser des voyages,
ben ouais,
me sauvent en courant. Un voyage, ça s'organise de lui-même, et même, tu sais, maintenant avec Internet, tu peux booker des hôtels, tu peux faire ce que tu veux, le pouvoir est entre tes mains, et je trouve que c'est plus nécessaire de se faire organiser. Je trouve que c'est souvent mais ça dépend, il y a des personnes qui sont peut-être plus insécures pour
bien
qui
sûr.
Ça va être des voyages plus intéressants, mais si le moindrement on a le goût de l'aventure, il faut rien organiser.
Mais c'est vexant un peu par moment, parce que tu organises ton voyage, tu t'en vas dans un canyon pas connu, tu tournes le coin du canyon, t'es tout seul, t'entends la nature, les insectes presque, t'entends le vent, tu tournes un coin de roche, tout à coup il y a une gang de touristes chinois qui arrivent,
oui,
avec leur Kodak. Toi, tu l'organisais tout seul, mais c'était un lieu touristique dans leur pays. C'est hallucinant. C'est vexant pour le non-touriste ou,
oui,
pour le voyageur de se rendre compte qu'à un moment donné, t'as beau faire tout ce qu'il faut pour être voyageur, tu es un touriste.
C'est vrai, mais dans ce temps-là, ce que tu fais, c'est que tu dis « Je vais rester une petite demi-heure de plus, puis je vais y suivre, je vais avoir bien du fun. »
C'est donc vrai.
Puis tu peux en accrocher à un, puis après ça, je vais lui demander « Toutes vos photos, là, où c'est vous mettez ça? Quand est-ce que vous avez une chance de voir ça? » Donc, tu pars des conversations comme ça. Mais c'est vrai que maintenant, puis c'est normal, chaque coin essaie d'attirer.
Oui.
C'est une façon pour eux de faire rouler l'économie, de vraiment de développer. Moi, ça me fait bien rire parce que j'ai un ami qui est colombien et lui, il travaille dans l'industrie du tourisme.
Okay.
Et il y avait une région du Québec que je ne nommerai pas. Sa job, c'est vraiment d'aller voir puis de conseiller l'industrie locale pour leur dire vous devriez tabler sur ça, sur ça, sur ça. Et il est revenu d'une région au Québec, puis il disait j'étais tellement déprimé, il dit ils ont rien pour eux autres, il dit personne va avoir le goût d'aller là parce que partout au Québec, tout le monde table sur trois affaires. Si tu regardes les guides touristiques de chaque région, venez faire du canot, venez faire du plein air, venez faire de la marche en montagne, il dit tu sais, faire du canot, tu peux aller à 40 minutes de Montréal et tu peux faire du canot. Pourquoi aller à 900 km faire,
ouais,
du canot? Nous aussi, on a des maringouins, mais c'est cette espèce de t'es pas obligé d'avoir, c'est correct de pas avoir d'attrait, puis ça veut pas dire qu'il y a pas des gens qui vont vouloir aller là, c'est d'avoir de courir après l'attraction,
ouais,
touristique.
Ben oui.
Ça faisait rire de voir en région ici les gens rêver que le pape vienne de là.
C'est vrai. Oui.
Si le pape vient de là, là ça va partir.
Mm.
C'est oui, mais en même temps, avez-vous vraiment le goût que ça parte?
Ouais. Je te ramène à la photo parce que je vois une image presque du pape pris solitaire dans une région excentrique. C'est vraiment le genre de photo que tu aimes prendre. Un peu la démarche du photojournaliste aussi dans ce que tu fais.
Ben c'est sûr que comme j'essaie de découvrir les endroits, oui, c'est j'essaie de les expliquer à moi-même,
ouais,
en faisant de la photo. Donc c'est sûr qu'il y a une notion de photo journalisme. Oui, ça c'est indissociable.
On parlait d'Herbie Moreau tout à l'heure. Tu es l'anti-Herbie Moreau en ce sens que c'est rarement ou presque jamais posé tes photos.
Non, mais moi c'est une règle que je m'impose. Faut pas que ça soit stagé. Si ça l'est, j'ai l'impression d'avoir triché. Moi, j'étais déprimé profondément de savoir que le baiser de l'hôtel de ville de Paris, il avait demandé deux personnes de s'embrasser. Puis je trouve ça a tué la photo pour moi. Mm-hmm. Elle était si belle. En même temps, c'est moi, je cours plus après la pureté du moment que la belle photo. Si je l'ai pas attrapée, et c'est ça qui est difficile quand tu prends des photos un peu comme je fais, et même, tu sais, moi, quand j'ai rien à faire dans la conférence de presse, je vais toujours discuter avec les photographes de presse.
Oui.
Et le photographe a à vivre avec un piano sur la tête. Toutes les photos qu'il a vues et qu'il a pas réussi à prendre, ça, là, c'est pour un photographe, là, c'est le poignard dans le cœur, parce que souvent, tu vois une affaire, tu dis « Ah! Quelle photo géniale! » Le temps que tu sortes ton appareil photo, ton setting est pas... tu t'en manques.
Oui.
Là, tu es obligé, tu l'as vu, cette maudite photo-là. Là, tu te promènes, puis tu sais qu'elle était géniale, mais tu l'as pas, tu l'auras jamais, va être juste dans tes mémoires. Et le photographe doit apprendre à vivre avec les photos qu'il a faites, mais aussi avec les photos qu'il a pas faites.
Qu'il a pas faites.
Et ça, là, ça, c'est insultant.
Mais là, cette maladie mentale-là, est-ce qu'elle habite la partie photographe de toi ou la partie aussi reporter de toi? Est-ce que, la belle quote, j'étais pas là, j'avais pas mon micro, la belle situation, j'aurais pu faire quelque chose avec. Est-ce que c'est juste le photographe qui est maniaque comme ça?
Les deux sont maniaques comme ça, okay. Mais le photographe trouve ça encore plus souffrant que le infoman. C'est rater une photo ou de pas être là, de pas avoir son appareil photo quand ça se passe, ou d'avoir son appareil photo. Tu sais, moi, je dis toujours à la blague que les éléments de la vie font exprès et essaient que tu prennes pas la photo. Sauf au Japon.
Sauf au Japon, bien sûr. Ben oui.
Mais c'est vraiment, il y a une communauté d'esprit. C'est un peu comme quand on essaie à la caméra de filmer un drapeau. C'est sûr que le vent va arrêter.
Ben c'est sûr.
le photographe a à vivre avec ces moments-là qu'il a vu mais qu'il a pas réussi à prendre.
Wow.
Où il y a la photo qui était géniale, puis là, la personne bouge son bras, puis où il y a quelqu'un qui passe dans le shot pendant que tu cliques. Ça, c'est très frustrant. Mm. Ça.
Le noir et blanc.
Oui.
Ta préférence absolue.
Oui, profondément. Moi, j'ai été élevé en noir et blanc quand j'ai fait de la photo au début, avec l'argentique, là, les acides. Là, puis, parce qu'au début, il faut se rappeler, moi, quand je raconte, je m'en viens vieux, et il fallait choisir, parce que c'était un choix financier, parce que l'agrandisseur couleur, les acides, c'était pas la même chose, c'était beaucoup plus cher que le petit agrandisseur noir et blanc avec les trois bacs d'acide. Donc, c'était un choix financier au début, mais moi, j'ai toujours trouvé que le plus fun était le moins cher. Parce que le noir et blanc, je trouve que ça donne vraiment de la noblesse aux images. Je trouve que il y a vraiment un feeling avec le noir et blanc qu'on retrouve pas. D'ailleurs, je suis très frustré parce que maintenant, avec les appareils photo numériques, on a toujours un fichier RAW qu'on appelle, et on a le choix de la mettre en noir et blanc ou en couleur. Et des fois, je vais voir avec mes amis, puis je leur dis hey, « cette photo-là, l'aimez-vous mieux en couleur, en noir et blanc? » Puis ils répondent toujours « couleur ». Ça me ment maudit. Parce que moi, j'aime toujours mieux en noir et blanc. Dans le livre, j'ai peut-être un 10% de photos en couleur. Il y en a que je suis quand même... que je trouve qu'ils sont belles en couleur, mais honnêtement, je les aurais mis en noir et blanc toute la gang.
Mm-hmm. C'est sûr qu'un joueur du Canadien, ça sort toujours mieux en couleur.
Moi, je trouve pas. Ils sont très noirs et blancs ces temps-ci.
Oui, il y a ça. C'est vrai. Puis c'est vrai, je m'obstinerai pas avec toi. T'as l'œil et tu sais capter l'essence des choses. Qu'est-ce que ça te dit, cette obsession du selfie? Quand on parle photo aujourd'hui, une fois sur deux, c'est un selfie.
Je trouve que c'est le côté égoïste de la vie moderne. Je trouve que c'est l'espèce de... Je trouve que les réseaux sociaux... Moi, je suis pas sur les réseaux sociaux. J'ai mon Facebook. J'ai pas de Twitter. Je trouve que ça m'a donné beaucoup plus de bénéfices que de je vois des amis qui sont presque prisonniers de leur Facebook et de leur Twitter. Tu deviens un peu le propriétaire de ta propre station de télé ou de ta propre... Faut que tu te diffuses. Et là, des fois, il y a des personnes qui ont la pression. Hey, là, je suis à telle place. Faut que je montre que je suis à telle place. Faut que je me pose. Faut que je présente des images de où je suis. Mon voyage, mes amis Facebook ou sur Twitter, on s'attend à ce qu'ils savent que je suis en Barbade pendant une semaine. Donc, faut que je je le montre. Et moi, je trouve que ça t'oblige à... Tu sais, un selfie, c'est comme de prouver que je suis là.
C'est ça. Je suis ici. Je veux dire je suis.
Ouais. C'est on est beaucoup dans le... Et c'est pour ça que quand je suis allé au spécial de fin d'année, j'ai rencontré quelqu'un que j'ai trouvé vraiment sympathique qui a inventé le slogan « Je suis Charlie ».
Oui.
Puis je me demandais
oui.
pourquoi ça a pogné, pourquoi « Je suis Charlie », là, tu sais, le feu, tout le monde oui. avait des T-shirts « Je suis Charlie ». Mais ça fait appel, premièrement, « Je suis ». Qui est vraiment dans l'air du temps. On est beaucoup « je suis » dans nos Facebook, dans nos Twitter. Et c'est un selfie « je suis
ouais. ».
Et il disait que ça faisait beaucoup appel justement à cette notion-là. « Je suis Charlie ». C'était clairement moi aussi. C'était prendre un selfie devant les attentats.
Ah, c'est très juste, oui, effectivement. C'est quoi une bonne photo pour toi?
Je vais reprendre la définition de Jacques Nadeau, un photographe que j'aime ouais. beaucoup. C'est un coup de poing sur la gueule. C'est tu regardes la photo puis tu manges un coup de poing pour une raison parfois ésotérique et c'est difficilement explicable. C'est parce que des fois ça peut être rien. Moi j'ai une photo qui m'a beaucoup touché d'Helmut Newton. Et c'est le pied d'une femme vraiment en close-up, c'est son talon haut vu de derrière. Et c'est rien. C'est un talon haut vu de derrière, de proche là. Mais la manière qu'il y a, les lignes, la façon dont le pied est placé, l'éclairage m'a donné un coup de poing. C'est wow! Et je suis sûr que tu prends 100 photographes, tu leur donnes un pied et un talon haut, tu leur dis, faites-moi une photo comme ça, il n'y en aura pas un. C'est un peu des fois comme Jackson Pollock. T'sais, tout le monde essaye d'éparpiller de la peinture à terre, mais c'est-tu bizarre? Il y avait juste Jackson Pollock que ça faisait un Jackson Pollock. Pourquoi? C'est cette espèce de lien ésotérique-là entre l'artiste puis son œuvre et le fait que pourquoi une affaire si simple, personne n'est capable de reproduire ça. Si on décortique, il y a plusieurs façons de faire de la photo. C'est sûr que si tu es un photographe moyen, mais tu as accès à un endroit absolument unique, tu vas faire des bonnes photos parce que ça va être des photos d'endroits uniques que personne n'a jamais vus. Tu pars en bateau avec des migrants, la traversée, c'est sûr que tu vas avoir des photos, des bonnes photos. Est-ce que ça va être des photos artistiques? Est-ce que ça va être des coups de poing? Mais ça va être des bonnes photos, tu sais. Mais moi, le photographe qui m'impressionne plus, c'est celui, qui est dans le bateau, mais qui, en plus, trouve une manière artistique de présenter ou de voir dans le regard. Je reviens à Jacques Nadeau. Moi, c'est une de mes idoles personnelles, justement, parce que quand j'arrive dans une conférence de presse, je le vois dans son coin. C'est un politicien, trois verres d'eau, des néons. Et c'est tout le temps lui qui sort avec la photo. Paf! La photo coup de poing. Et tu le vois, souvent, je l'observe dans le coin. Puis là, il prend des photos, clic-clic-clic-clic-clic. Là, le petit sourire en coin apparaît. Puis tu dis, OK, il a sa photo. Et il y a aussi le fait qu'il a pensé avant à qu'est-ce qui se passe ici. C'est quoi les émotions qui sont en lien avec la conférence de presse? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut pas nous dire? C'est quoi l'actualité derrière la conférence de presse? Et il va chercher ce petit moment-là qui ne ment pas. Et c'est là que tu as des photos coup de poing. Et il y a 15 photographes à côté de lui qui auront pas ce moment-là.
Effectivement. Et c'est quoi un bon reportage?
Un bon reportage télé ou un bon reportage?
Télé, oui.
Un bon reportage, je dirais, il y a un côté pédagogique. Je pense qu'il faut que tu es condamné à ce que ton reportage soit intéressant, peu importe le sujet, même si c'est un sujet plate. Tu es condamné à ce que la vulgarisation soit efficace, parce que souvent, c'est pas des sujets... Le budget, la fiscalité, le ministre de l'Agriculture qui te parle de certaines choses. Et moi, j'irais... Tu sais, il y a le côté divertissement. Et moi, la pédagogie, je la place un peu dans la catégorie du divertissement. Il faut qu'il y ait de l'information... Il faut qu'il y ait de l'information nouvelle, que ce soit pas du remâché, que t'es pas juste repris partout. Puis il faut que la pédagogie t'amène à justement trouver ça intéressant et trouver ça assez intéressant pour que tu retiennes une partie de l'information.
Et là, drette là, où est-ce que tu aurais envie d'aller photographier quelque chose?
J'irais peut-être dans le désert. Ouais. J'irais peut-être dans le désert du Nevada. Là. Il y a des il y a des cratères nucléaires. Là. Ouais. Quand ils ont essayé les bombes, j'irais voir ça. Ouais, ça c'est le fun ça.
Bonne chance.
Ben non, mais je suis sûr qu'il y a des touristes qui se promènent là.
Je suis sûr.
Des touristes japonais à côté des.
Sûr.
Mais imagine un autobus complet de touristes japonais à côté d'un cratère nucléaire au Nevada.
Ouais.
Wow.
En effet.
Wow.
Jean-René Dufort, merci beaucoup.
De rien.